Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la géométrie vectorielle dans l'espace. On a sous les yeux un ensemble de notes, de formules. L'idée, c'est pas de refaire un cours de maths, hein, mais plutôt de décortiquer ça ensemble. Comprendre ce que ces outils nous disent vraiment sur l'espace 3D.
Oui, c'est une excellente approche. Parce que ces formules, bon, elles peuvent paraître un peu abstraites au premier abord.
C'est vrai.
Mais en réalité, elles sont absolument fondamentales. C'est le langage qu'on utilise pour décrire les positions, les orientations, les relations entre objets dans l'espace.
D'accord.
Et ça, on le retrouve partout. Ingénierie, physique, et même l'informatique graphique, le cinéma.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment la base, quoi.
C'est ça. La grammaire de l'espace 3D.
Alors, commençons par un incontournable de ces notes. Le produit scalaire. On voit cette notation AB vecteur point AC vecteur. La définition géométrique utilise un cosinus. AB fois AC fois cos de l'angle. Et ça donne un nombre, un scalaire. Mais concrètement, ce nombre, il nous dit quoi?
Alors, ce nombre, il est extrêmement riche en informations. En gros, il mesure à quel point deux vecteurs regardent dans la même direction.
D'accord.
S'ils sont alignés, opposés ou, et c'est là que ça devient très utile, s'ils sont perpendiculaires.
Ah, la fameuse orthogonalité, la condition AB vecteur point AC vecteur égale 0. Si le produit scalaire fait 0, c'est que les vecteurs sont orthogonaux. Enfin, s'ils ne sont pas nuls, bien sûr.
Exactement. Et ce test, il est d'une simplicité redoutable. Un produit scalaire nul, hop, angle droit. C'est quasi binaire.
Oui.
Et ça, c'est fondamental. Dans un jeu vidéo, par exemple, pour détecter une collision, paf, un produit scalaire. En conception, pour vérifier un assemblage. C'est vraiment un verdict immédiat sur l'orthogonalité.
Et la formule avec les coordonnées xx' plus yy' plus zz', elle simplifie tout ça, non? Pas besoin de calculer l'angle et le cosinus à chaque fois.
Ah ben oui, heureusement. Dès qu'on a un repère, cette formule xx' plus yy' plus zz' rend le calcul direct. C'est l'outil pratique par excellence. Et il faut noter aussi que si on fait le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, vecteur par vecteur, on obtient le carré de sa longueur, sa norme au carré. Donc la norme, la longueur, découle aussi de ça. La norme, c'est racine de P dot P.
D'accord. C'est cohérent. Donc, produit scalaire, angle droit et projection. Compris. Maintenant, comment on décrit des objets plus complexes? Un plan, par exemple. Les notes donnent AX plus BX plus CZ plus D égale 0. Et elles parlent d'un vecteur normal, vecteur ABC. C'est quoi son rôle à ce vecteur?
Alors, ce vecteur normal, vecteur ABC, c'est vraiment la clé pour définir un plan. Imaginez une feuille de papier infinie dans l'espace.
Oui.
Le vecteur normal, c'est une flèche qui est parfaitement perpendiculaire à cette feuille. Dans n'importe quelle direction sur la feuille, le vecteur normal formera un angle droit.
Ah, d'accord.
Et les coefficients A, B, C de l'équation du plan, ce sont tout simplement les coordonnées de ce vecteur normal. Ils donnent l'orientation du plan dans l'espace.
C'est une image très claire. Et pour une sphère, là, on a une équation qui ressemble à x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. Ça semble plus intuitif.
Oui, celle-là, elle est très parlante. C'est la traduction directe de la définition. Tous les points m, x, y, z, dont la distance au centre oméga ABC est égale au rayon r. Le ABC, c'est le centre, r, c'est le rayon.
Simple.
Il y a aussi une forme développée. X au carré plus AX plus Y au carré plus BY plus Z au carré plus CZ plus D égale 0. Elle a l'air plus compliquée, mais en fait, on peut toujours retrouver le centre et le rayon avec une petite manipulation, la mise sous forme canonique.
D'accord. Et il y a une autre caractérisation qui m'a intrigué dans les notes pour une sphère de diamètre AB. C'est AM vecteur point BM vecteur égale 0. Ça veut dire quoi?
Que l'angle AMB est toujours droit. Exactement. C'est une propriété géométrique très élégante. Si vous prenez un diamètre d'une sphère, AB, et n'importe quel autre point M sur la sphère, alors le triangle AMB est toujours rectangle en M.
Ah oui!
Et le produit scalaire nul, AM vecteur point BM vecteur égale 0, c'est la traduction parfaite de cet angle droit. C'est une façon très maligne de trouver l'équation d'une sphère si on connaît juste deux points opposés du diamètre.
C'est super astucieux. L'exemple donné avec A et B aboutit directement à x carré plus y carré plus z carré moins x moins y moins 3z égale 0.
C'est ça.
Fascinant. Bon, on a nos objets, plan, sphère, maintenant les interactions. Comment on calcule par exemple la distance d'un point M à un plan P?
Alors là, les notes donnent une formule très directe. D de MP égale AXM plus BYM plus CZM plus D sur racine de A carré plus B carré plus C carré. On prend l'équation du plan, AX plus BY plus CZ plus D égale 0, les coordonnées du point M, XM, YM, ZM, on applique et hop, on a la distance.
Pratique.
C'est la distance la plus courte, bien sûr. Il y a une autre formule avec le produit scalaire, AM bar, grosse barre, où A est un point du plan et M, le vecteur normal. Elle donne le même résultat, mais elle montre mieux l'idée géométrique. C'est la longueur de la projection du vecteur AM bar sur la direction normale.
D'accord, je vois l'idée. Et si on a deux plans, P et Q, comment on sait s'ils sont parallèles, perpendiculaires ou juste sécants? J'imagine que leurs vecteurs normaux N bar et N bli bar sont encore la clé.
Absolument. Tout se joue dans la relation entre N bar et N bli bar. C'est très logique.
Alors?
Si U et V sont collinéaires, c'est-à-dire l'un est multiple de l'autre, U égale KV, ils indiquent la même direction ou des directions opposées.
Donc les plans sont parallèles.
Voilà. Ils ont la même orientation, s'ils sont identiques ou strictement parallèles.
Ok.
Maintenant, si U et V sont orthogonaux, on revient à notre outil favori.
Le produit scalaire UV égale 0.
Exactement. Si le produit scalaire est nul, les normales sont perpendiculaires et donc les plans se coupent à angle droit. Ils sont perpendiculaires.
Logique.
Et sinon, si les vecteurs normaux ne sont ni collinéaires ni orthogonaux, alors les plans se coupent tout simplement. Leur intersection est une droite.
D'accord. Et ça marche pareil pour une droite et un plan, j'imagine?
Le principe est similaire, oui. On compare le vecteur directeur de la droite au vecteur normal du plan. Orthogonaux, la droite est parallèle au plan. Collinéaire, la droite est perpendiculaire au plan.
Très clair. Et pour une sphère qui rencontre un plan ou une droite, c'est quoi le critère pour savoir s'il y a intersection et de quel type?
Là, c'est une comparaison de distance qui décide. On calcule D, la distance entre le centre de la sphère, oméga, et l'objet, le plan ou la droite. Et on compare cette distance D au rayon R de la sphère.
Ok, D versus R.
Trois cas possibles. Si D était exactement égal à R.
Ça veut dire que l'objet touche juste la surface.
C'est ça. Il y a tangence, un seul point de contact. La droite est tangente à la sphère où le plan est tangent.
D'accord.
Si D est plus grand que R, des paires, l'objet est trop loin du centre. Il passe à côté.
Donc pas d'intersection.
Exactement. Et enfin, si D est plus petit que R, DR, là, l'objet traverse la sphère.
Il y a intersection.
Oui. Si c'est un plan, l'intersection est un cercle. On peut même calculer son rayon racine de R carré moins D carré. Si c'est une droite, elle coupe la sphère en deux points distants. C'est assez intuitif si on visualise la situation.
Oui, tout à fait. Bon, on a vu le produit scalaire, super outil pour tester l'orthogonalité, mesurer des projections. Mais si on veut faire l'inverse, si on veut créer de l'orthogonalité, trouver une direction perpendiculaire à deux autres, c'est là qu'intervient l'autre produit des notes, le produit vectoriel, avec le symbole AND.
Précisément. Le produit vectoriel, noté vecteur AB, vecteur AC, c'est l'outil pour ça. Et attention, le résultat, vecteur EC égale vecteur AB, vecteur AC, n'est pas un nombre, c'est un nouveau vecteur.
Un vecteur, d'accord.
Et sa propriété fondamentale, vraiment extraordinaire, c'est que ce vecteur résultant vecteur est toujours orthogonal à la fois à E et à B.
Toujours.
Toujours. Sauf si E ou B nul, ou s'ils sont collinaires, auquel cas le produit vectoriel est le vecteur nul. Si E et B ne sont pas collinaires, ils définissent un plan. Eh bien, E, vecteur B, est un vecteur normal à ce plan. C'est le constructeur d'orthogonalité par excellence.
Ah ben c'est génial ça. Donc, si j'ai trois points ABC qui ne sont pas sur la même droite, je calcule AB vecteur AC et j'obtiens direct un vecteur normal au plan ABC.
Exactement. C'est une de ces applications les plus puissantes et les plus directes. Fini de chercher un vecteur normal compliqué, le produit vectoriel nous le donne sur un plateau.
Ça simplifie beaucoup de choses, j'imagine.
Énormément. Et ce n'est pas tout. La longueur de ce vecteur résultant, sa norme, ni x ni y, elle a aussi une signification géométrique très importante. Elle est égale à ni x fois ni y fois sinus x, y.
Le sinus, cette fois, pas le cosinus.
Oui. Le sinus. Et cette quantité, ça correspond exactement à l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs x et y.
Donc le produit vectoriel donne une direction orthogonale et une mesure d'aire.
C'est ça. Orientation et surface, c'est très riche.
Et comme pour le produit scalaire, il y a un cas où il est nul. Ni x ni y égale ni le vecteur nul. Ça arrive quand ?
Ça arrive si et seulement si les vecteurs x et y sont collinéaires, s'ils sont sur la même ligne.
Ah ! Donc c'est un test de collinarité cette fois.
Tout à fait. C'est le pendant du test d'orthogonalité du produit scalaire. On a U produit scalaire nul égale orthogonalité, produit vectoriel nul égale collinéarité. Les deux se complètent parfaitement.
C'est bien vu.
Attention aussi, l'ordre compte ici. U vecteur V vecteur n'est pas égal à V vecteur U vecteur, c'est l'opposé. U vecteur V vecteur égale moins V vecteur U vecteur. On dit qu'il est anticommutatif.
D'accord, faut faire attention au sens. Et le calcul avec les coordonnées BC' moins CB', etc., a l'air un peu calculatoire ?
Il l'est un peu, oui. Mais il découle logiquement des propriétés de base et de la définition dans un repère orthonormé direct. C'est une recette de calcul, mais l'important, c'est de comprendre ce que le résultat représente, ce fameux vecteur orthogonal.
Les notes listent pas mal d'applications à tester. L'alignement de points, trouver l'équation d'un plan, calculer l'aire d'un triangle, même une distance d'un point à une droite. Plutôt que de les détailler toutes, revenons à l'idée maîtresse. Comment ces deux produits, scalaires et vectoriels, s'articulent comment ? Comment ils travaillent ensemble ?
Ils sont vraiment comme les deux faces d'une même médaille pour comprendre les relations entre vecteurs. Le scalaire, il teste une relation existante, l'orthogonalité, la projection, et il donne un nombre.
Ok.
Le vectoriel, lui, il construit une relation, l'orthogonalité à deux vecteurs donnés, et il donne un nouveau vecteur, dont la norme mesure une aire.
Tester versus construire.
C'est une bonne façon de le voir, oui. Et ils collaborent souvent. Prenons l'exemple typique. On veut l'équation du plan ABC, passant par trois points A, B, C, non alignés.
Oui.
Étape 1, on a besoin d'un vecteur normal au plan. Comment le construire ? Hop, produit vectoriel. N égale AB vecteur AC.
D'accord, on a notre vecteur normal, N.
Étape 2, maintenant on dit qu'un point M, X, Y, Z appartient au plan ABC si et seulement si le vecteur AM, qui est dans le plan, est orthogonal au vecteur normal.
Et comment on teste l'orthogonalité ?
Avec le produit scalaire. La condition est donc AM vecteur N égale 0. Et ça, c'est l'équation du plan.
Ah oui, c'est limpide. Le vectoriel crée la normale, le scalaire vérifie l'orthogonalité pour définir le plan. Superbe.
On voit bien la complémentarité.
Les notes évoquent aussi très rapidement le déterminant de trois vecteurs. Dette de V, vectoriel U, vectoriel V. C'est lié à tout ça ?
Oui, c'est lié. Le déterminant, c'est une opération sur trois vecteurs qui donne un scalaire. Géométriquement, sa valeur absolue, c'est le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs, U, V et W.
Le volume ?
Oui. Et donc, si le déterminant est nul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le volume est nul. Les trois vecteurs sont aplatis.
Ils sont dans le même plan, coplanaire.
Exactement. Le déterminant nul est donc un test de coplanarité. C'est une notion un peu plus avancée qui combine implicitement les idées des deux produits.
D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu cette exploration, on a le produit scalaire, notre détecteur d'angle droit et de projection, le produit vectoriel, le constructeur de perpendicularité et le mesureur d'air.
C'est ça.
Des équations claires pour décrire les plans et les sphères. Et puis des outils pour calculer les distances, les intersections. C'est une sacrée boîte à outils pour naviguer et construire en 3D, finalement.
C'est exactement ça. Une boîte à outils incroyablement puissante. Et il faut vraiment insister, hein. Ce n'est pas juste un jeu intellectuel pour matheux.
Non, bien sûr.
C'est grâce à ces outils que les architectes peuvent concevoir des structures audacieuses, que les physiciens modélisent des phénomènes complexes, que les développeurs de jeux créent des mondes virtuels interactifs.
Que les roboticiens programment des mouvements précis.
Absolument. Partout où on a besoin de manipuler l'espace 3D avec précision, ces vecteurs, ces produits, ces équations sont là, discrètement à l'œuvre.
C'est une perspective essentielle à garder en tête. Ces concepts, qui semblent abstraits, façonnent en fait notre interaction avec le réel et le virtuel.
Oui. Et peut-être, pour conclure, une petite question à laisser mûrir. En nous donnant ce langage si précis, si puissant pour décrire et manipuler les relations spatiales, comment ces outils vectoriels ont-ils changé non seulement notre façon de comprendre le monde, mais aussi, peut-être plus profondément, notre capacité à le transformer, à le simuler, et même à imaginer et bâtir des réalités complètement nouvelles. L'impact de cette grammaire de l'espace, il dépasse largement le cadre des mathématiques pures, vous ne croyez pas ?
C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant.
Merci à vous.